Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Daryl et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview de Bouscapé. Notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute.
On a à Chamonix. Je suis venu dans le cadre des Jeux Olympiques d'hiver. Le Coq Sportif, ils sont sponsors d'équipe de France Olympique et c'est mon sponsor aussi. Et donc, ils ont monté une petite fanbase ici, à la Folie Douce, où du coup, toutes les familles des gens qui concourent à Pékin peuvent venir ici supporter, encourager. Et du coup, pas mal de sportifs du Coq viennent en profiter aussi.
La boxe dans le sang.
On va commencer avec le commencement. Déjà, ce rapport à la boxe, toi, comment t'es amené à en faire? Et en connaissant un peu ton entourage, est-ce que t'as le choix de faire autre chose en vrai?
Moi, je suis boxeur parce que mon père était boxeur, tu vois. Il a commencé la boxe en Afrique. Il est arrivé jusqu'en Europe. Et voilà, depuis tout petit, on va dire que je baigne dedans. Mon père, il voulait pas forcément que je sois boxeur. Quand t'as un enfant, t'as pas forcément envie de le mettre dans un sport où il prend des coups, tout ça. On parlait d'autres choses, du basket, de ci, de ça. Mais on faisait quand même de la boxe à la maison. Donc j'ai toujours fait de la boxe. Et vraiment, à partir de 6 ans, j'étais en club. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des sparring, des assauts, des trucs jusqu'à maintenant.
Tu viens de Champlou-les-Vignes. Moi, personnellement, j'ai connu cette ville par la haine. Il y a notamment cette scène d'Hubert qui boxe en début de film.
Moi, ce film-là, il représente beaucoup pour moi. Et dans mon quartier, il y a pas grand-chose qui s'est passé à Champlou-les-Vignes, tu vois. Donc, à partir du moment où un film qui a autant marché, qui a autant marqué de génération que la haine, il a été tourné chez nous, c'est une fierté. T'es obligé de l'avoir vu, de connaître ce film quand tu viens de Chanteloup.
Justement, tu m'as dit que tu commences la boxe à 6 ans, mais j'ai vu que ton père il commence à t'entraîner de 8 ans à 16 ans.
J'avais les entraînements au club lundi, mercredi, vendredi, et quoi qu'il arrive, dimanche, on s'entraînait à la maison, tu vois. Et mon père, on va dire, jusqu'à ce que j'ai 12 ans, il ne me calcule pas forcément en boxe. Avant 14 ans, tu n'as pas de vrai combat. Ça s'appelle la boxe éducative et t'as pas le droit d'appuyer les coups, sinon t'es disqualifié, etc. Donc c'est pas des vraies compètes. Et lui, ça l'intéressait pas trop, ça, tu vois. Il me dit, écoute, va t'amuser, fais tes trucs. Et quand j'ai 12 ans, maman, je lui dis, toi, t'as fait de la boxe, moi, je fais des combats, je fais des entraînements, tu t'en fous, c'est quoi le truc, tu vois. Il m'a dit, moi, je suis pas là pour rigoler. Ça veut dire, si je viens, je vais t'entraîner. Mais je vais vraiment t'entraîner, tu vois. Et donc, il m'a dit, quand t'es prêt, tu me diras. Donc, je dis, vas-y, viens, c'est bon, viens me voir, tu vois. Parce que tu fais des compètes, ton père, il vient pas, t'es vénère un peu, tu vois. Et donc, il commence à m'entraîner à cet âge-là. Et donc, du coup, il devient coach dans la salle de boxe, tu vois, pour pouvoir être au plus près de moi à ce moment-là.
Comment ça se passe? Parce qu'on sait comment ça peut se passer quand ton père commence à t'entraîner, avec l'exigence qu'il peut éprouver envers toi, surtout qu'il a été ancien boxeur, qu'il a pas forcément arrêté de son plein gré sa carrière. Et qu'il a peut-être mis toute son ambition en toi. Toi, ça se passait comment avec lui?
J'ai entendu beaucoup d'histoires par rapport à quand tu t'entraînes avec ton père ou ta mère, tu vois, dans un sport, c'est compliqué. Moi, ça a toujours été... On a toujours eu une bonne relation parce que la relation père-fils, on l'a laissé au vestiaire. Et là, c'était entraîneur-entraîné, tu vois. Et quand tu te fais entraîner en boxe, t'as besoin d'avoir confiance. T'as besoin d'avoir confiance en ton coach. Et moi, j'avais pleine confiance en mon père, tu vois. Je savais que ce qu'il disait, c'était pour mon bien, que s'il me demandait de faire un truc technique ou une tactique spécifique en combat, c'est parce que vraiment, il était convaincu de la chose, tu vois. Il a été très exigeant, mais c'est parce que c'est le sport qui veut ça. Tu sais, il y en a qui critiquaient, entre guillemets, ouais, c'est trop ce qu'il lui fait faire, il a 13 ans, c'est pas... Tu sais, faut pas l'entraîner comme ça, etc. Et au final, en y repensant, quand je regarde le haut niveau... Le haut niveau cadet, junior, à l'international, ben non, en fait, c'est ça, tu vois. C'est juste que t'en as qui sont trop dans l'amusement, ouais, ça va, c'est des enfants, alors que c'est du sport, en fait, tu vois. Et quand t'arrives à 14 ans, et qu'à partir de 14 ans, on dit là, tu rentres en boxe amateur, et en boxe amateur, tu peux mettre des KO, si tu t'entraînes pas, ça, c'est compliqué.
J'ai vu qu'après, tu signes au BA des Mureaux, qui est un des meilleurs clubs de France.
En fait, à 14 ans, je passe amateur. Donc, je suis à Chanteloup encore, tu vois. Et moi, j'ai pas forcément d'attache avec les coachs de là-bas. Ça a été mon premier club, mais il y avait pas beaucoup de gens de Chanteloup dedans. C'est un club un peu, tu vois, spécial. Et le coach de Chanteloup, il a jamais cru en moi. Moi, je suis tranquille, c'est pas grave, tu vois, avec mon père. Et il me rappelle d'une phrase qu'il m'a dit, j'avais, je crois, peut-être 11-12 ans. Il a dit, de toute façon, tu feras rien en boxe, tu vois. C'est pas grave.
Il en pense quoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, il essaie de se mettre en avant, dire oui, je suis le premier coach de Tunioka, alors que c'est tellement, on sait que c'est pas vrai, tu vois. Donc quand je suis là, il peut pas dire ça. Mais je sais qu'il le dit aux mecs qui viennent dans son club ou des trucs comme ça. Donc moi, je me suis jamais senti redevable envers le club de Chanteloup, même si je fais deux fois champion de France avec eux. Donc mes deux années cadets, je fais champion de France et du coup, je rentre en équipe de France jeune. Et je rencontre des amis, les gars des Mureaux, tu vois. Eli Conky, avec qui, du coup, j'ai fait toute ma carrière jusqu'au JO. On se rencontre, on a quoi? On a 13-14 ans. Et du coup, ça devient mon pote, etc. On s'entraîne ensemble et tout. Et il me dit, ouais, mais nous, on est au Mureaux, on est à côté, ça. Et c'est un bon club. En vrai, t'avais Mendy qui sortait de là-bas, t'avais Ali Alab, t'avais, tu vois. Nous, à l'époque, c'était quelque chose de gros, tu vois. C'est un des meilleurs clubs de France. Donc, je me dis, pour passer un cap... Faut changer de club, tu vois. Déjà, aller dans un club qui est ouvert tous les jours au lieu de trois fois par semaine, ce serait bien pour monter et rester dans le haut niveau. Donc, je décide d'aller au BA. Moi, j'habite à Chanteloup. Je prends le train pour aller en cours. Donc, je vais en cours. Je finis tous les jours, je finis vers 17, 17:30. Et en fait, sur le chemin du retour, le train passe soit par Chanteloup et après, tu peux continuer pour aller à côté du Mureaux. Donc, quand je passe à Chanteloup, je donne mon sac à dos à mon petit frère. Il me donne mon sac de sport. Et je continue, je sais plus c'est quoi la station. Et en gros, quand je descends, je dois marcher 30 minutes pour aller à la salle. Et ça, je le fais tous les jours, tu vois. Et quand je finis, j'avais un train à 21h17. Une demi-heure, je remarche jusqu'à la station. Donc tu rentres chez toi, il est 21h30. Tu pars à 7h40 et tu rentres à 21h30. Et quand tu rentres faire des devoirs, des trucs, c'est compliqué. Tu vois, c'est chaud pour un gars de 16 ans... d'aller en cours, de s'entraîner, sachant que t'es pas dans un sport études, c'est dur, tu vois.
Mais c'est quoi, du coup, ton ambition? Qu'est-ce que tu te dis en tête pour te motiver en permanence?
Franchement, j'ai pas forcément... C'est pas que j'ai pas d'ambition en ce moment-là, c'est que je me rendais pas forcément compte de la dureté de la chose. Je vais à l'école, après, faut que je prenne le train. Pour moi, c'est normal, tu vois. J'ai commencé à être appelé en équipe de France, j'avais 15 ans. T'as vu, tu sors d'un quartier, t'as jamais pris l'avion... Tu prends Survette, équipe de France, voilà, on va là, on va ici, tu vas en Angleterre, tu fais le truc, tu kiffes, tu vois. Donc les années juniors, c'est pas de l'amusement parce que c'est des vraies compètes que tu fais, mais c'est les meilleures années que tu vis parce que vous êtes plusieurs à vivre ces expériences-là, tu vois.
L'INSEP.
Et après, t'intègres l'INSEP. J'aimerais bien qu'on parle de ça parce que c'est quelque chose qui est pas, pour moi, très connu des gens même qui s'intéressent au sport. Est-ce que tu te fais repérer par rapport à tes résultats? Est-ce que c'est parce que t'es en équipe de France ou tu dois passer des détections pour y aller?
En boxe, c'est vraiment l'équipe de France qui gère tout, tu vois.
Okay.
Donc, je suis en équipe de France cadet, donc moins de 16. Je fais l'équipe de France junior. Et normalement, en l'INSEP, tu rentres en senior. Donc, quand t'as plus de 18 ans. Et moi, comme je t'ai dit, c'est compliqué. Tu vois, mon lycée, plus le truc, je me fais virer. Je me fais virer de mon lycée et pendant 5 mois, je vais à l'INSEP tous les jours. Je fais Chanteloup-Lévis 7-8, INSEP Vincennes, tous les jours. C'est quoi, j'en ai pour 1h30, tu vois, pour arriver jusqu'à là-bas. Train, métro, bus, etc. J'arrive à l'INSEP, je m'entraîne à 11h. Aller à 14h, je vais au self. Je mange, je rentre. Je fais une sieste sur le banc des vestiaires, tu vois. J'avais pas de chambre. Donc, je dors sur le banc des vestiaires. Et après, je me rentraîne avec eux 16h30. Et je rentre chez moi 1h30. Donc, j'arrive, ouais, pareil, 21h, 22h chez moi. Et ça, je le fais 5 mois, tous les jours. Et les mecs, ils se disent...
Mais là, il n'y avait pas moyen de t'intégrer quand même à la structure?
Non. Ben non, tu ne rentres pas en tant que mineur, tu vois. Donc, moi, je fais ça 5 mois. Et ils se disent quand même, tu vois, le gars, il est déterminé, tu vois. Et à l'époque, je suis jeune, mais je m'entraîne avec les grands. Et donc, je vais au championnat d'Europe junior. Et je suis médaillé. Donc, comme je suis médaillé, mon père, il parle avec la DTN et tout. Ils disent, regardez, t'as vu, le petit, il est là. Et tu sens que tu vois qu'il est déterminé, tu vois qu'il lâche pas l'affaire. Donc, en gros, ça y est, le mec, il fait 3 heures de transport par jour, faut penser à lui, tu vois. Donc, de là, j'ai réussi à intégrer l'INSEP en tant qu'interne. Et je reste, quoi, je fais 4-5 ans en interne à l'INSEP après ça. T'as l'école sur place, t'as tes entraînements. Du coup, tu passes d'un entraînement par jour à 2, tu vois. Donc, t'augmentes le niveau. Et en plus, t'arrives dans un endroit où tu peux croiser. Tu croises Teddy Riner, tu croises Ladji Doucouré, tu croises des gens comme ça. Et à 17-18 ans, ça te fait quelque chose quand même.
Attends, on parle de manière très sereine, mais en vrai, ça doit être une période un peu compliquée dans le sens où tu dois faire des sacrifices, tu peux pas forcément aller à toutes les soirées que tu veux à Chanteloup, t'es obligé de rester sur place. Toi, c'est quelque chose que t'as quand même réussi à gérer directement ou ça s'est fait sur le long terme?
Non. Après, je pense que t'as vu, il faut savoir ce que tu veux de une et de deux quand t'es jeune comme ça, quand t'as 17-18 ans, tu calcules pas en fait. C'est toi, t'as envie de faire ça, ouais, tu pars en équipe de France, ok, vas-y, tu intègres l'INSEP, ouais, ok. Tu vois, t'es innocent, t'as de l'insouciance, donc tu fais les choses sans vraiment réfléchir aux conséquences ou à ce que les sacrifices que tu vas devoir vraiment faire dans ta vie, tu vois. Parce que pour moi, certes, tu fais des sacrifices, mais t'as quand même des bénéfices. T'es en équipe de France, tu voyages, tu vois, c'est pas pareil. Première année où j'arrive à l'INSEP, je fais médaille d'argent au championnat du monde junior et je fais médaille d'or aux Jeux Olympiques junior. Donc, c'est des JO, mais pour les moins de 18 ans, en gros.
Justement, parlant des JO, il y a une époque qui est un peu, j'ai l'impression, zappée par les gens, c'est les JO 2012. Parce qu'on retient beaucoup les JO 2016 comme ta première participation, alors que pas du tout, il y a les JO 2012 avant, dans lesquels, si tu me dis si je me trompe, mais tu tombes au premier tour, c'est ça?
In the red corner, representing Canada, Simon Keane.
Et c'était un peu en vrai le premier échec, enfin la première désillusion dans ta carrière. Toi, comment tu avais vécu le truc à l'époque?
Moi, tout s'enchaînait vite pour moi. Équipe de France junior, je suis médaillé mondial, je suis champion olympique de la jeunesse, je suis propulsé directement dès que j'arrive en senior, je suis numéro 1. Normalement, tu galères quand même, tu vois, deviens numéro 1. Eli, il a attendu plusieurs années. Souleymane Sissoko, il arrive, il est numéro 4 en senior. Tu vois, il y a plein de mecs devant lui. Il passe numéro 3, numéro 2, il se bat, il a sa place, tu vois. Et moi, je suis arrivé, j'étais directement numéro 1, parce qu'on n'est pas forcément très bon en poids lourd en France, donc j'ai pas une grosse concurrence, tu vois. Et donc on va, on fait ci, on fait ça, t'es avec les grands, ouais, vas-y, qualification pour les JO, boum, je me qualifie. C'est un peu pas inattendu, parce que moi, je comptais, je tablais dessus, mais voilà, j'étais le plus jeune poids lourd aux JO, tu vois. Ce qui me frustre à Londres, c'est que même si, voilà, je sais que j'aurais pas gagné, mais je perds mon huitième de finale face à un mec que je sais que je dois taper tous les jours, tu vois. Et là, ça me frustre, parce que je voulais quand même passer ce tour-là, essayer de faire quelque chose, tu vois. Je savais que moi, les JO pour lesquels je serais prêt seraient 2016, tu vois. Je savais que 2016, 24 ans, je serais plus aguerri, et là, ce serait différent.
On va repartir à l'INSEP, parce que tu gagnes beaucoup de trophées.
Ouais.
T'es le plus jeune poids lourd qualifié aux JO 2012, mais étrangement, ça m'a fait tiquer, tu te fais virer de l'INSEP.
Ouais.
Pourquoi?
Comme je me suis fait virer de mon lycée. Bon, tu sais, quand t'es jeune, tu fais. tu fais quelques conneries, tu vois. Franchement, l'INSEP, moi, jusqu'aujourd'hui, entre l'ancien directeur et l'ancienne responsable, je les ai encore aujourd'hui au téléphone ou quoi. Je suis pas un méchant garçon. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde, mais voilà, j'étais un peu turbulent, tu vois.
T'as fait quoi?
Donc. Non, franchement, on a fait 2-3 conneries. Mais c'est gentil, c'est des trucs tranquilles. Et je pense que ça m'a servi de sortir quand même de l'INSEP. Parce que l'INSEP, tu peux pas y rester 10 ans. Il fallait que je sorte de cette facilité pour rentrer dans la vie active, tout simplement. Tu vois.
Mais justement, j'ai l'impression que la période post-INSEP, elle est un peu compliquée. Parce que tu te blesses et tu perds aussi au premier tour des championnats du monde amateur.
Ouais, je fais... Championnat du monde 2013. Je fais une préparation, je fais même pas la moitié de la prépa. Parce que un coup, j'ai un doigt cassé. Donc, vas-y, je m'entraîne pas trop pendant un mois. Je reprends, je m'ouvre le genou. Mais je force quand même pour aller au championnat du monde, même si j'ai fait que la moitié de la prépa. J'arrive là-bas, je tombe face au mec qui était médaille d'argent au JO un an avant, tu vois, champion olympique, les Jeux olympiques d'avant. Donc, je sors au premier tour et... C'est pas forcément ça la déception, c'est le rapport que j'avais à cette époque avec la Fédé. en étant en conflit, mais en gros conflit, tu vois. Donc je me fais virer, il me fait virer de l'équipe de France, je me fais virer de l'INSEP. C'est pas forcément l'INSEP qui me vire, moi, c'est plus la Fédé, tu vois. Je bouge et je fais mon truc de mon côté, tu vois. Je me dis, c'est quoi, c'est pas grave. Moi, je vais faire ma vie de mon côté. Je suis rancunier, tu vois. Donc je leur dis, j'ai dit, et c'est vous qui allez me rappeler, tu vois. Et j'ai dit, la vie de ma mère que tu vas me rappeler. Et donc je fais mon truc de mon côté. Et de là, je suis carrément obligé de refaire les championnats de France. Parce que moi, je faisais plus les France, tu vois. Comme je suis en équipe de France, je faisais plus les championnats de France. Donc je refais les championnats de France. Quart de finale, demi-finale, finale, KO, KO, KO. KO, KO, KO. Et donc de là, ils doivent donner le trophée du meilleur boxeur. Et donc le DTN, il vient voir les coachs, tu vois. Et il leur demande qui doivent donner le trophée, tu vois. Ils n'ont pas le choix. J'ai mis des KO. Et donc, de là, ils me rendent le truc, ils me rappellent en équipe de France. Donc, j'y retourne, mais je ne suis plus à l'INSEP. Je suis dans mon coin parce que j'ai trouvé un équilibre entre... avec ma structure, moi, j'ai besoin d'un travail individuel, tu vois. Et je trouve qu'à cette époque-là, c'était trop... t'es trop noyé dans la masse. Sachant que moi, je suis poids lourd. Je ne peux pas m'entraîner comme le mec qui fait 60 kilos. On n'a pas les mêmes besoins, tu vois. Et t'as des mecs qui ont... C'est des mecs techniques, d'autres, c'est des mecs physiques. Donc, on ne peut pas s'entraîner pareil. Et c'est pour ça qu'en fait, en France, on n'a jamais été fort en poids lourd parce qu'ils ne savent pas les entraîner. Ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Donc, moi, je reste dans mon coin. Je prends mon préparateur physique, je prends mon père, je prends un autre coach. Et je me dis, allez, je vais rester dans mon coin. Et je préfère m'entraîner comme ça. On verra où ça me mène, tu vois. On s'est dit, vas-y, moi, je serai champion olympique en 2016. Mais t'as des étapes avant d'être champion olympique. Tu arrives en quart de finale des mondes, tu fais une médaille au monde, et là, tu vois qu'entre 2012 et 2015, je fais médaille nulle part, en fait. Parce qu'à chaque fois, je suis blessé, là, ils m'ont viré, là, j'y vais pas. Donc, tu te retrouves un an avant les JO, t'as pas encore fait de résultats. Donc, ouais, t'as l'ambition de devenir champion olympique, mais juste le dire, c'est pas tout. Il faut pouvoir avoir les capacités de le faire, tu vois.
Le rêve olympique.
Et se passe comment, du coup, la préparation pour les championnats du monde 2015, par exemple?
La prépa pour les mondes, du coup, elle se passe hyper bien. Pas de blessure, rien. Ça fait des années que je ne me suis pas senti aussi bien, tu vois. Donc, quand je vais au monde, moi, j'y vais vraiment dans l'optique de faire un bon championnat du monde. Juste faire un bon tournoi. Je ne me mets pas de limite, mais je n'ai pas l'ambition de devenir champion du monde. C'est pas mon obsession, tu vois. Donc j'y vais et je me dis, vas-y, je vais juste me confronter aux meilleurs mondiaux pour voir un peu jauger mon niveau à un an des Jeux, tu vois. Et en fait, sur le tournoi, moi, je boxe le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3 mondial. Je boxe tout le monde. Et successivement, du coup, les mecs, je les bats. Et donc, je fais champion du monde, qualifié direct pour les JO. Les JO, c'était dans 10 mois. Tu vois. Et quand je descends du ring et tout, les gens célèbrent et tout. Et moi, je leur dis, putain, c'est un truc de fou. Du quoi? Je dis, mais je vais être champion olympique. Et je suis, parce que moi, dans ma tête, je suis déjà sur ça. Et je me dis, avec la prépa que j'ai fait, là, je me suis entraîné quoi? 3-4 mois, je suis champion du monde. Je dis, c'est sûr, je vais être champion olympique. Et j'arrive au JO, moi, j'ai aucun doute. J'arrive, ouais, ça va bien se passer, tu vois. Parce que je suis, dans ma tête, je suis programmé.
Mais c'est compliqué de parler comme ça en France, hein.
Tu sais, le jour où j'arrive au JO, je suis numéro un mondial, champion du monde en titre. Je suis en pleine confiance. Je fais des interviews de, tu sais, quand t'arrives au Club France et tout. Et on me dit, oui, alors voilà, c'est quoi tes ambitions pour ces Jeux? T'as fait les Jeux 2012, t'as perdu, etc. etc. Et ouais. Moi, je dis, bah écoute, moi, je viens prendre la médaille d'or. Moi, je suis là pour gagner. Et t'as des journalistes qui me disent, oui, mais vous savez, voilà, en France, on peut pas trop dire ça. Mais tu veux que je te dise quoi, en fait? Tu attends que je te dise quoi? Que je viens pour la médaille de bronze, je suis déjà champion du monde. Ce sera un échec, tu vois. T'es obligé de dire que tu viens pour gagner. Le jour où je monte sur le ring et je viens pour perdre, c'est qu'il y a un problème. Parce que chaque combat, moi, je fais pas du ping-pong. Moi, je viens et je me bagarre avec quelqu'un. Donc, je peux pas imaginer dans ma tête ne pas gagner. Tu vois, ça peut arriver, mais je viens pour ça. Je peux pas venir pour autre chose.
Il l'avait dit, il a assumé, il a assuré. À 24 ans, Tony Oka devient un poids lourd du sport français. Champion du monde et désormais champion olympique. C'est une grande carrière qui s'ouvre à lui. Ce titre n'est pas un aboutissement. Il est le point de départ d'une grande histoire, d'une grande carrière pour Tony Oka.
En plus, Estelle, elle fait, elle passe ses tours avant moi. Donc j'ai cette pression en plus, tu vois. Elle devient, moi je gagne ma demi-finale, une heure après elle devient championne olympique. Moi je boxe deux jours après. C'est, tu veux que je fasse quoi? Je veux le gagner. Je fais médaille d'argent, c'est, ça casse le truc. Tu vois, on va dire, allez, toi c'est bon. Tu vois, tu niques tout. Donc j'ai eu une grosse pression, mais comme j'étais champion du monde et que j'arrive en tant que numéro un, j'ai eu 10 mois en fait pour me préparer à cet événement.
Toi, tu ne dis pas, par exemple, que peut y avoir un excès de zèle de la part du jury, au décompte des points, des choses dans le genre?
Non. Franchement, à cette époque-là, il y a beaucoup de vols en boxe, mais je savais qu'on était protégés. Tu vois, ça aurait été d'autres Jeux Olympiques, j'aurais peut-être pas fait champion olympique. Parce que les juges, voilà, si tu aurais boxé tel pays, ça, ça.
Quel pays?
Tous les pays, tout ce qui est Kazakhstan, Russie, tu sais que les mecs, si tu le boxes, c'est compliqué, tu vois, au niveau des pointages.
Tu te rappelles ce que tu t'es dit, pardon, quand le jury a rendu sa décision, en finale?
T'as vu, nous, on avait un système, t'as pas le pointage des juges.
Ouais.
Mais à la télé, tu l'as.
Ok.
Tu vois. Donc, nous, il y avait toujours quelqu'un qui restait en tribune et qui regardait sur son téléphone le pointage à la minute de repos, tu vois. Et donc, moi, à la minute de repos, je suis avec mes coachs pendant 50 secondes. Et tu sais, les 10 dernières secondes, ils tapent, tu vois. Donc, les 10 dernières secondes, tu te lèves et tout, tu repars. Okay. Et moi, quand je me relève, je regarde la tribune. Okay. Et si on me fait ça, c'est que je gagne le round. Si on me fait ça, c'est que je perds. Si on me fait ça, c'est qu'en gros, je gagne 2-1. Donc, c'est mitigé, okay, tu vois. Et donc, premier round, je regarde, on me fait ça. Deuxième round, je regarde, on me fait ça. C'est, t'as 3 rounds. T'en gagnes 2, t'as gagné. Si tu tombes pas KO, t'as gagné. Donc je savais que j'avais gagné.
C'est ce qui explique par exemple ton enjaillement, par exemple, quand le jury il est en train d'attendre.
Bien sûr,
savoir.
Je sais que j'ai gagné.
Parce qu'à chaque fois, ça fait peur un peu de se dire.
De base, ça fait peur, mais moi, j'avais le pointage. Ouais. Donc je me dis non, j'ai pas une.
En vrai, le gars, il a perdu aussi, en fait.
Non, parce que je sais pas si eux, ils regardaient les points ou pas, tu vois, je sais pas. Peut-être, nous, en tout cas, on avait cette tactique-là avec l'équipe de France.
Quand on est sur le toit de la France et le toit du monde chez les amateurs, on gagne bien sa vie ou pas?
Ça veut dire quoi, bien gagner sa vie? Tu sais pas.
Non. Aujourd'hui, je pense que tu gagnes bien ta vie.
Ouais.
Mais en 2015, tu gagnes bien ta vie.
Par rapport à un Français lambda?
Par rapport à un boxeur qui est champion du monde.
Déjà, les boxeurs, ils gagnent pas d'argent en France.
Voilà, c'est ça qu'il faut dire alors.
Non, les boxeurs, ils gagnent pas d'argent en France. Chez lui, on est moins de 10 à vivre de la boxe, tu vois. Et moi, je suis une exception. Parce que voilà, il y a eu tout qui s'est aligné au bon moment. Mais oui, en 2015, avant les JO, est-ce que par rapport à un Français qui travaille normalement, je gagne bien ma vie? Oui. Mais je ne gagnais pas la même chose qu'aujourd'hui, tu vois.
Là, bizarrement, on va rentrer dans la partie peut-être la plus compliquée de ta carrière. Parce que avec la médaille d'or, ton nom, il devient global en France. Tu dépasses le cadre de la boxe. Ça veut dire que les gens qui ne s'intéressent pas forcément qu'à la boxe sont en train de parler de toi. Tu sors des JO, tu multiplies les apparitions médiatiques, t'es jury de Miss France. Voilà, donc ton nom, il est au centre de toutes les attentions. C'était comment de vivre ça, avec toute la pression que ça pouvait engendrer?
Ça a été dur. Ça a été dur parce que tu prends l'avion, tu vas au JO, médiatiquement, aux yeux des Français, t'es personne, entre guillemets. Et quand tu reviens, t'es la star des JO. Et ça, tu t'en rends pas forcément compte, tu vois. Et donc, quand on rentre des JO, on est dans l'équipe de France, tu vois, on fait tout, on va à l'Elysée, on va sur France Télé, etc. Et la caméra, elle est là. Bah, avec Estelle, on est au milieu, tu vois. On est au milieu, et tu vois, non, vous devenez devant. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, bah, petit à petit, tu sors dehors, tout le monde te connaît, tout le monde veut prendre des photos avec toi, etc. Et là, tu te dis, ah ouais, ça a vraiment marché, tu vois. Et comme tu l'as dit, ça, tu dépasses complètement le cadre de la boxe. Parce que ce soit les petits, les vieux, les grands, moi, au final, quand on est venu me voir, j'ai fait le pic d'audience des JO. J'ai fait entre 8 et 9 millions de téléspectateurs pour ma finale, tu vois. Donc ça, c'est juste ouf. Et tu mets un moment à l'encaisser quand même. C'est nouveau, c'est bien, mais tu te rends pas tout de suite compte qu'il y a le revers du truc, tu vois. C'est que du coup, à partir de ce moment-là, ben, t'as pas le droit à l'erreur. Mais pour rien, tu peux rien faire. C'est que dès que tu vas faire quelque chose, et ben, les gens vont être sur toi.
Et pas que pour le sport en plus. Parce
pas que pour le sport, non.
En vrai, ce qui ressort des JO, c'est toi et Estelle Mosley, qui étaient vraiment le couple doré. Est-ce que c'était pas compliqué un peu d'être comme ça, érigé comme le couple parfait, le couple devant toutes les caméras, comme ça?
Compliqué, non. Après, nous, on a vécu le truc comme il venait, tu vois. On avait pas, on s'est dit quoi, on va pas se cacher que d'être ensemble. Et en même temps, on n'a jamais essayé de monétiser notre couple ou notre famille. Donc, on s'est dit, écoute, si le truc, il marche comme ça, mais on va pas en jouer, tu vois. On n'a pas vendu les photos du mariage à tel people, vendu les photos des échos, des trucs. On n'est pas dans des trucs comme ça, tu vois. Parce que je monétise pas ma famille, en fait.
Je reparle du fait que tu sortes du simple cadre de la boxe, parce qu'il y a notamment le fait que tu signes un contrat d'exclusivité avec Canal+.
On avait envie d'avoir Tony avec nous. On a fini ce deal hier soir, donc c'est assez récent. Et voilà, on est parti pour 4 ans en exclusivité. On va l'accompagner le plus longtemps possible.
C'est quoi, c'est 3-4 combats par an, c'est ça, à peu près, on verra.
Et du coup, les termes du contrat, c'était 4 ans. Et c'était une exclusivité complète sur tous tes combats.
En fait, c'est pas vraiment un contrat à l'année, c'est au combat. On a signé pour 15 combats. On s'est dit, écoute, tu sais, quand tu passes pro, tu fais pas des gros combats tout de suite. Donc, je voulais avoir une sécurité, que ce soit de structure ou une sécurité financière, pour pouvoir être tranquille sur mes 15 premiers combats et au moins après dealer.
Le projet, tu l'appelles La Conquête. Et tu dis très clairement que le but, c'est de pouvoir boxer pour la ceinture mondiale au bout de ces 4 ans. Est-ce que c'était quelque chose que tu percevais de vraiment atteignable? Ou avec du recul, c'est un projet qui était quand même dur à réaliser en si peu de temps?
Bah, en vrai, 4 ans, c'est pas si long que ça, tu vois. Moi, je me voyais faire un championnat du monde à 4 ans. Moi, pour moi, c'était pas inatteignable, tu vois. C'était, ouais, ok, d'accord, on fait les combats, on fait les trucs qu'il faut. Et si ça se passe bien, c'est largement réalisable. Maintenant, après, entre-temps, beaucoup de problèmes, tu vois.
Oui, c'est sûr. On va en parler. Mais déjà, le fait de partir vivre en Californie, même si c'est aussi quelque chose d'arrangeant pour la logistique avec ton coach, Virgil Hunter, est-ce que c'était pas aussi une manière de d'esquiver un peu tout ce qui se passait en France et de pouvoir se focaliser uniquement sur la boxe à l'étranger?
Complètement. Complètement. Moi, ça me permet de couper avec tout, tu vois. Et tu vas faire tes courses, personne ne s'est quitté, tu vas à l'entraînement. Moi, j'ai une vie de mec lambda quand je suis à San Francisco, tu vois. Ça me permettait d'être isolé et justement de pouvoir me focaliser que sur mon sport, tu vois. De ne pas avoir tous les à côté, que ce soit la famille, que ce soit les amis. On t'appelle, viens au resto, viens ci, toutes les tentations, tu vois. Je ne voulais pas avoir tout ça, je voulais vraiment être focus que sur mon sport. J'arrive dans une salle où t'as des champions du monde. T'as Amir Khan, t'as André Ward, t'as André Berthaud. J'arrive, moi, je suis un petit. Que dans n'importe quelle salle de France où je vais aller, je suis un grand, en fait, tu vois. Et je voulais pas avoir ce statut-là. Je voulais pouvoir apprendre d'autres mecs. Et surtout, avoir un coach qui est déjà passé par là. En fait, je veux pas arriver un jour sur un titre mondial. Et moi, c'est ma première. Et mon coach aussi, c'est sa première. Et qui va me dire quoi, en fait, tu vois? Et quel coach français, il a amené un mec champion olympique sur le toit du monde? Il n'y en a pas, tu vois?
Petite parenthèse, t'as pensé quoi du combat entre Gann et Ganou?
J'ai attendu toute la nuit ce combat. Franchement, on a attendu des semaines. Et forcément, moi, j'étais pour Cyril. Il était présent, d'ailleurs, à mon dernier combat. C'est un top gars. Et franchement, je respecte énormément ce qu'il fait, tu vois. Donc, j'étais forcément déçu pour lui à la fin du combat. Mais c'est un gros fight. Franchement, ce combat, il reste dans les annales. Hein, tu vois, des combats de poids lourds comme ça, j'en ai pas vu beaucoup.
Hein. En plus, on voit que Ngannou, il peut s'intéresser à la boxe anglaise. Toi, tu penses quoi de ce move?
Bah, moi, je sais pourquoi. Tout le monde sait pourquoi.
Pourquoi?
L'argent. Il ne gagne pas d'argent en MMA. Après, je te dis, il ne gagne pas d'argent. Il gagne de l'argent, mais c'est pas... Tu vois, ce qu'il génère, bah, ils ne le prennent pas. C'est Dana White qui s'en fout plein les poches, tu vois. Quand tu vois qu'un sur un combat comme ça, Ngannou, il prend quoi, 800 000 dollars, 900 000 dollars. Gagne, il prend 400. C'est des malades mentaux. Tu vois, quelques mois avant, tu as Fury qui boxe Wilder. Fury, il prend 60 millions. Wilder, il prend 40. On n'est pas dans le même monde, en fait. Et tu te dis que les mecs, même si tu ne veux pas les payer forcément cher, franchement, tu donnes 3-4 millions à Ngannou, tu en donnes 2-3 à Gann, ça lui fait perdre quoi à Dana White? Ça lui fait rien perdre. Mais c'est tellement un crevard que... Franchement, 400 000 dollars, ça fait quoi? 350 000 euros pour Cyril Gann. Allez, 350 000 euros. T'enlèves 20% que tu donnes à ton staff, etc. Il te reste combien? T'enlèves les impôts, il te reste combien? tu fais quoi avec ça? T'achètes même pas un appart, tu vois. Donc c'est pas avec ça que tu te dis ouais, ma vie elle est bien, la vie de mes enfants sur des générations, tu vois. Que tu prends 40 millions, c'est pas pareil. Donc forcément, Ngannou, il sait que si jamais il va en Anglaise, franchement, le premier combat qu'il fait, ouais, il prend peut-être 5 ou 10 millions. Et c'est pas pareil, tu vois.
Mmh. Et au-delà de l'aspect monétaire, tu penses quoi de Ngannou en boxe anglaise?
Il va rien faire du tout. C'est un grand champion du UFC, mais c'est pas le même sport, tu vois. C'est... En MMA, franchement, je pense qu'il en a impressionné plus d'un sur le dernier combat. Parce qu'on savait que c'était un mec fort physiquement, que voilà, il cogne, etc. Mais il a réussi à s'adapter, il a réussi à progresser techniquement. Franchement, sur le combat qu'il nous a montré, j'ai envie de dire, il est imbattable, tu vois. Cyril l'a attrapé sa cheville, c'est Ngannou l'a regardé en mode ouais, tu fais quoi là, tu vois. Mais il va aller faire quoi en boxe? Il peut battre quelques boxeurs, hein, mais il va jamais.
Toi, par exemple, contre toi, il y aura pas match.
Non, mais après, moi, je vais pas manquer de respect à Francis, mais même lui, il va jamais dire ouais, je vais le cogner, tu vois. On fait pas le même sport en fait. Ça peut être intéressant, peut-être, mais parce qu'il a commencé par ça. Moi, la première fois que je vois Francis, c'est en 2014, je crois, et il est sparring de Takam. Donc, on est dans la même salle. Et donc, il a commencé par l'anglaise. Mais avec les qualités qu'il a, il est beaucoup plus fort en MMA.
La conquête.
Là, on en revient à la boxe et au début de la conquête. Donc, au début, tu entames tes premiers combats. Je me rappelle, tu fais 3 victoires en 6-7 mois. Tu enchaînes les victoires. Et ce qui revient en permanence, c'est le fait que tu combattes contre des seconds couteaux. Et je me voyais notamment sur les réseaux, je pense que tu l'as vu aussi. T'es oui, ok, il affronte le boucher du coin, il affronte un agent de la sécu. Toi, comment tu prenais ça sur le coup?
Tu prends mal, forcément, tu vois. Tu le prends mal et surtout, si c'est mérité, je te dis ok, c'est pas mérité. Quand t'arrives en boxe pro, tu dois progresser. Tu dois adapter ta boxe qui était amateur à ta boxe professionnelle. Et surtout, tu dois monter dans le classement.
Et surtout, t'as pas le droit de perdre en plus.
Et tu boxes pas n'importe qui. Tu peux pas dire, ouais, moi, demain, je peux pas dire, ouais, je boxe Fury. C'est comme une légitimité. Je suis combien au classement pour le boxer, tu vois. Donc, on est 1200 dans le monde, dans le classement. Tu vois, sur BoxRec, on est 1200. Donc, faut que tu montes, tu vois. Donc, mon premier combat, je prends un mec qui est classé dans les 300, je crois. C'est bien, déjà. Après, je le bats. À mon deuxième combat, mon adversaire, il est classé 98. Et tout le monde me dit, mais t'es un fou, tu boxes d'autres personnes, tu vois. Mais comme je suis au-dessus de lui et que les gens ne connaissent pas, ah, vas-y, il est nul. Alors que non. Mon cinquième combat, c'est David Allen, il est classé numéro 20 mondial. Tu ne vas pas me dire que j'ai affronté un boucher. 20 mondial. C'est des mecs qui ne connaissent pas, parce qu'ils connaissent Joshua, Wilder, aujourd'hui ils connaissent Fury, et c'est tout, tu vois. Après ça, ils ne connaissent rien. Et le truc, c'est que même les journalistes, eh ben, ils tombent dedans. Tu vois, au lieu d'éduquer, entre guillemets, le public, de leur donner de la vraie information, bah, les mecs, ils suivent le truc. Parce que quand t'as un Français qui rentre dans le top 100, ah, c'est le roi du pétrole, oui, c'est notre nouveau chouchou, c'est notre nouveau signe. Tu imagines, demain, t'es numéro 20 ATP. C'est, ouais, t'es quelqu'un, tu vois. Moi, je boxe le 20, tu dis, c'est un boucher. Ben non, tu peux pas me dire ça.
Tu vas encore sur les réseaux après tes combats ou plus du tout?
Moi, les réseaux, j'ai laissé. Moi, les réseaux, j'ai laissé à quelqu'un. Parler, mais... Non, sinon, je vais insulter quelqu'un, tu vois. Donc, j'ai laissé. Et tu te rends compte au bout d'un moment que. T'as vu, t'es trop focalisé sur le mauvais. Et il y a forcément des gens qui vont pas t'aimer dans ta vie, en fait, c'est comme ça. Il y a des gens qui m'aiment pas, mais il y a des gens qui t'aiment pas, toi. Et toi, il y a des gens qui t'aiment pas. Il y a des gens qui aiment pas tout le monde. Mais même si t'es pas connu, tu vois, t'as des gens qui t'aiment bien et t'as des gens qui t'aiment pas. Il faut arriver à l'accepter que même s'ils me connaissent pas, ils m'aiment pas. Donc, si t'as 100 commentaires, que tu en as 5 négatifs, toi, tu vas te concentrer sur ça au lieu de regarder les autres personnes qui, elles, t'apportent du soutien et t'apportent de la force. Et aujourd'hui, moi, je préfère me concentrer sur ça. Regarder les mecs qui, eux, m'apportent du soutien, bah voilà, je préfère rester avec eux. Là, mon prochain combat, je boxe numéro 18 mondial. Si je galère, les mecs du top 10, ils vont rigoler, tu vois. Ils vont dire, bah, il n'a pas sa place ici. Donc, justement, en fait, faut passer le truc vite, tu vois. Quand le PSG il arrive en Champions League et que, je sais pas, admettons, en 8e, il aurait joué le Sporting Portugal. S'il gagne pas 3-0, on va se dire, il y a un problème, tu vois. Je prends du recul et je prends plus les trucs aussi personnellement que je pouvais les prendre avant, tu vois. Après, en vrai, Si j'ai un truc à dire, je le dis. Et c'est pour ça que, justement, tu vas croiser très peu de gens qui n'ont pas d'avis sur moi. Soit ils m'aiment bien, soit ils m'aiment pas. Mais t'as peu de gens qui vont te dire « Ouais, c'est toujours si tu me connais, tu m'aimes bien ou tu m'aimes pas. » Parce que je dis ce que je pense, et en vrai, ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, je m'en fous, en fait. Tu vois.
Ok. Mais dans les cas concrets, par exemple, quand tu mets une story dans laquelle tu montres que t'es contre Messi, ou peut-être même plus pour Ronaldo, ou que tu réagis de manière plus ou moins virulente avec ce qui s'est passé pour George Floyd, est-ce qu'avec du recul, tu te dis que t'as merdé ou c'est des choses que tu referais si tu pouvais les faire?
Le mieux, en vrai, c'est d'avoir un truc le plus lisse possible, tu vois. Mais ça fait partie de mon expérience. Je vais pas dire que je regrette un truc alors qu'en fait, je le regrette pas, tu vois. Et ce qui m'embête, en fait, c'est toujours le fait de pointer du doigt un truc alors que, certes, la forme n'est pas bonne, mais en fait, on parle du fond du problème. C'est comme George Floyd. Comment tu peux t'indigner plus de ma réaction que de ce qui se passe? C'est ça, en fait, le problème. C'est, moi, je te parle d'un problème. Et ce problème-là, je suis confronté. Et mes enfants peuvent y être confrontés. Tu vois, à cette époque-là, je vais aux États-Unis avec mon fils. On fait comment, en fait? Moi, la police, là-bas, ils ne me connaissent pas. Hein. Tu vois, donc ici, ouais, OK, je les connais. On est en France. Mais là-bas, je fais quoi? J'arrive avec lui dans la voiture. C'est quoi? Je ramasse le biberon, on me tire dessus. Tu peux être... Faut réfléchir, tu vois. Et le truc avec Messi, en vrai, moi, ça m'a fait rigoler. J'ai même pas...
Parce que les gens pensaient que c'était toi qui avais écrit, en plus.
Non, mais en fait, t'as vu, je suis sur un débat avec des amis à moi, et bref, il y a ce poste-là qui arrive. Donc forcément, t'as des pro-Ronaldo, pro-Messi, comme dans tous tes amis, t'as des pro-Real, pro-Barça, tu vois. Et donc, je mets ça pour rigoler, tu vois. Mais moi, je sais pas que ça va être repris. Et là, ça devient viral, et c'est partout sur Twitter, sur ci, ça. Je t'ai dit, je suis passé sur BFM TV à cause de...
T'es passé partout. C'est passé sur Bouscapé aussi.
C'est un truc de fou. Je me dis, ah
c'est
ouais,
qui écrit l'article,
la dinguerie. Je me dis, ah ouais, en fait, c'est puissant, tu vois. Faut pas parler de Messi. Mais moi, ça m'a fait rire, en vrai. J'ai dit quoi? J'ai pas insulté sa mère. J'ai dit que le Ballon d'Or, il le mérite pas. Et je le pense toujours, et je le redis, il le mérite pas, le Ballon d'Or cette année, tu vois.
La suspension d'un an.
On revient à la boxe. Là, t'étais sur un sacré run, on l'a dit. T'enchaînes plein de victoires. Et là, il y a un coup de frein. C'est ta sanction, enfin ta suspension. T'es condamné, enfin t'es suspendu pardon, à un an avec sursis par la commission antidopage de la Fédération française de boxe pour manquement à la réglementation antidopage. Moi, je te cache pas que c'est un truc archi flou de mon côté. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, de quoi être condamné à l'époque. Exactement.
En fait, le truc qui m'a un peu énervé, moi, sur cette histoire, c'est que c'est pas bien expliqué. Que quand tu connais pas, tu sais pas de quoi on parle. Et quand tu regardes un article où c'est marqué dans le titre Tony Yoka et dopage, tu regardes même pas l'article. Mais tu peux pas associer mon nom à du dopage pour un truc comme ça. Je vais prendre 2 minutes, je vais t'expliquer comment ça se passe quand t'es sportif. Tu dois dire tous les jours, tu vas donner un créneau de 1 heure tous les jours à la Fédération antidopage. Par exemple, là, ils savent que je suis ici. Ils ont l'adresse. Dire tous les jours, s'ils veulent venir, ils viennent. Si je rentre lundi, je rentre chez moi, je dois mettre à l'adresse de chez moi. Si je dors chez toi, je vais mettre l'adresse de chez toi, tu vois, tous les jours. Et en gros, s'ils viennent et que t'es pas là, t'as un avertissement, tu vois. Et au bout du 3e, t'es suspendu. Moi, je fais les Jeux Olympiques. Je suis contrôlé je sais pas combien de fois avant les JO. Pas dopé. J'arrive en finale. Quand tu finis la finale, ils te contrôlent. Pas dopé. Moi, après, je prends 6 mois de vacances. Je me dis, je suis champion olympique, je vais m'éclater. Pourquoi tu veux me contrôler? Je m'entraîne pas. J'ai pas de combat. Et en fait, c'est ça qui me dérange avec eux. C'est que t'as vu la fédération américaine, pendant 3 ou 4 mois avant ton combat, ils vont te contrôler. Et je le comprends, parce qu'on a un combat, on a une échéance qui arrive, tu me contrôles, tu me contrôles, tu me contrôles, pas de souci. La fédération française, quand je boxe, je descends du ring, ils me contrôlent. Mmh. Pour voir si j'étais dopé pendant le combat. Mmh. 3 jours plus tard, tu reviens me contrôler. Je suis en vacances. Ça se trouve, je suis pompé l'up. Je m'entraîne même pas, en fait. Pourquoi tu veux me contrôler? Et c'est ça, eux, ils viennent, ils te contrôlent. Ah, t'étais pas là, ok, si, ça, ça. Et moi, je me suis dit, bon, allez, ils vont voir que c'était après les JO, qu'il n'y a pas forcément eu de problème, que ça n'a jamais été pendant une compète ou avant un combat. Ils ne vont pas me suspendre. Peut-être ils vont me mettre 3 mois, allez, 6 mois. Quand ils me mettent 1 an, c'est du sabotage. Tu peux pas me faire ça, en fait, tu vois. Et en gros, la dernière fois que j'ai un problème avec eux, c'est au lieu de remplir le nouveau trimestre avant le 30 juin, eh ben, on le remplit le 2 juillet. Et parce que c'est 2 jours de battement, ben voilà. Problème, sanction, suspendu. Et moi, c'est un truc que je peux pas gérer. Parce que je peux pas tous les jours savoir où... Enfin, tu sais, des fois, j'ai oublié, tu vois. T'es focus sur ta box, t'es focus sur ci, t'es focus sur ça, et tu calcules pas. Donc, depuis que j'ai été suspendu, bah, c'est même plus moi qui gère. Mon gars, il gère, et c'est lui qui remplit où je suis. Et des fois, moi, je vais zapper. À telle heure, il va me dire, ouais, tu dors où ce soir? Ah ouais, attends, j'ai zappé, mais chez mes parents. Parce que c'est pas un truc qui est... En fait, mets-moi un bracelet, c'est mieux.
C'est
bracelet électronique, c'est un truc de fou. Tu dois pointer tous les jours. Et si tu le remplis pas, par exemple... Là, j'ai dit que j'étais ici. Si je veux changer pour demain, il faut que je change avant 17h. Admettons, tu vas chez tes parents. Avant les Jeux, j'ai failli louper les Jeux à cause de ça. Je vais chez mes parents, je rentre à 23h. Je prends ma voiture, je roule, pneu crevé. Bon, je reste chez mes parents. Mes parents sont sous les vignes. Et moi, j'habite à Champigny. Je me lève le matin, je me dis, putain, je me laisse mon téléphone sur sonnerie, je suis sûr qu'ils vont appeler. Et ils m'appellent 7h du matin, bonjour, agence anti-dopage, on est devant chez vous, Champigny. J'ai dit, purée, t'as une heure pour être là, tu vois. Et je me dis, en une heure, c'est impossible le matin que j'arrive jusque là-bas. Donc, comme par hasard, j'ai eu de la chance, ils contrôlaient Estelle. Et ils te font urine et sang. Et je lui dis, tu pisses pas, donc je suis pas là. Donc, du coup, moi, je prends le taxi G7. Franchement, je fais une heure et demie. Et le gars, il a été cool, tu vois. Je lui ai expliqué l'histoire et tout, il a été cool. Et du coup, j'ai pas eu de problème. Mais tu te dis, je peux louper les JO à cause de ça.
C'est un peu de l'acharnement, quand même.
Franchement, c'est dur. C'est dur. Il faut qu'ils trouvent une solution, mais ça. Ça, c'est compliqué. En vrai, franchement, il devrait, je sais pas, mettre un truc. On a le téléphone tout le temps. Mets un truc dans mon téléphone. Je préfère sincèrement que tu mettes un truc dans mon téléphone. Tu me pistes, c'est pas grave. Mais là, t'as vu, quand tu loupes, c'est chaud, tu vois. C'est long et en plus, ça a entaché mon image. Parce que du coup, les gens ont associé mon nom avec du dopage, tu vois. Là, par exemple, si tu parles avec des Anglais, ils vont dire, ouais, cheater. Alors qu'il n'y a jamais eu aucune question de dopage, en fait. C'est pas ça, le truc. Mais comme je t'ai dit, c'est la titrologie. Tu mets mon nom, tu mets dopage, les gens ne vont pas chercher plus loin, tu vois.
Est-ce que tu dirais que ton titre olympique, c'est plus une bénédiction ou un fardeau?
Un fardeau par rapport à quoi?
Par rapport à tout ce qui s'ensuit.
Je suis le premier champion olympique français en poids lourd. À partir du moment où je gagne les JO, j'appelle ma mère, enfin, arrête de travailler, tu vois. J'offre une maison à mes parents... Je leur ai construit un truc de fou. On a grandi en HLM. Tu vois, on était 3 dans la même chambre, tu dors à 2 dans le lit. Mes parents, aujourd'hui, ils ont une villa. Comment je peux te dire que c'est un fardeau? Tu vois, c'est pas un fardeau. Après, certes, il y a des retours de médailles, il y a des trucs qui sont compliqués à vivre, mais je peux pas dire que c'est un fardeau. J'ai une très belle vie. Tu sais, je peux pas me plaindre, alors que ça, je déteste les gens qui font ça. Les mecs, ils gagnent je sais pas combien de millions, c'est des footballeurs, décider ça, ils commencent à se plaindre. Mais non. C'est pas vrai, en fait, tu mens.
La conquête reprend.
Quand tu reviens, tu t'enchaînes encore les victoires. Tu as notamment le titre de l'Union européenne, c'est ça? Que tu gagnes contre le Belgeco. Et là, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. C'est par rapport à l'enjeu du combat que tu devais avoir contre le Croate. Tu devais faire une demi-finale donc, pour IBF, c'est ça? C'est une fédération de la boxe. Et ce combat, il t'aura permis d'être le challenger officiel du champion en titre. Donc techniquement, alors qu'on va parler après de Martin Vacollet, il n'y a pas de problème, si tu avais fait ce combat-là, tu aurais pu combattre pour la ceinture juste après.
Mais en fait, dans le classement IBF, moi je crois que je dois être mondial, hein, je sais pas, 6, 7, un truc comme ça. Et donc il faut 2 mecs pour faire la demi-finale. Donc tu as le Croate qui est bien classé, et après ils ont demandé à tous les mecs en dessous. Donc ils ont demandé à Joseph Parker, il a décliné. Ils ont demandé à des mecs, bah, ils ont décliné, en fait.
Et c'est la fédération?
Ouais.
OK.
Donc, ils ont demandé, ils ont décliné parce qu'ils disent, bon, on va pas boxer le Croate, il est fort, alors que Joseph Parker, Chisor, etc., ils peuvent boxer d'autres mecs, tu vois. C'est les mecs connus, c'est les mecs du top 10. Donc ça arrive à mon nom, et moi, je dis oui tout de suite, parce que c'est une aubaine. Tu dis, si tu gagnes, t'es challenger du vainqueur Joshua Usyk, tu vois.
Et justement, c'est un combat qui va pas pouvoir avoir lieu parce qu'entre-temps, pareil, tu me dis si je me trompe, mais tu avais déjà signé un contrat avec Martin Bacolet.
Bah parce qu'on devait boxer en janvier et qu'à cause des jauges, Covid, etc., le combat a été décalé. Comme on l'avait déjà signé, j'ai pas pu me lancer sur le combat avec le Croate et je suis obligé d'honorer mon contrat avec Martin Bacolet.
On l'a vu dans la com que tu l'en voulais un peu et que tu avais dit que ça allait être personnel.
Mais complètement.
Non, mais honnêtement, à sa place, t'aurais fait quoi?
Franchement, à sa place, j'aurais pas fait ça. Je me serais arrangé autrement. Genre, s'il avait été intelligent, il m'aurait dit, écoute, fais le combat avec Ergovic et on signe un truc comme quoi, si tu gagnes et que t'es challenger, on se boxe à ce moment-là.
C'était possible vraiment pour lui, ça?
Ben oui, mais c'est plus intelligent de faire ça. Tu vois, c'est comme là, Joshua, Fury et Usyk. En gros, Joshua doit boxer Usyk. Mais c'est plus intelligent qu'il laisse Fury le boxer, rassembler les ceintures et après faire un top fight avec Joshua.
Et donc là, le combat contre Bacolet, tu le ressens comment?
En gros, j'ai un peu les boules d'avoir laissé passer une opportunité comme ça. Mais voilà, c'est déjà un gros combat face à Bacolet. Il est classé devant moi, tu vois. C'est quand même un top fighter. Donc il va falloir bien se préparer. Et comme je l'ai dit, moi, pour moi, je vais le prendre un peu plus personnellement parce que je l'en veux, tu vois.
Ça t'intéresserait de boxer Fury ou tu te contenterais de la ceinture Mondial IBF, par exemple?
Non, mais moi, je veux boxer le champion, tu vois. Moi, je veux avoir la ceinture, mais en ayant la ceinture, tu veux forcément faire des combats, des gros combats, des combats de légende, boxer des mecs comme ça, tu vois. Moi, ça m'intéresserait à fond de boxer Fury, boxer Wilder, boxer Joshua. Moi, je veux me confronter à ces mecs-là, tu vois.
Raphaël Tronchet.
Et tu vois, quand on voit un peu tes ambitions, c'est un peu étonnant de voir qu'en France, on attend de toi que tu combattes, par exemple, quelqu'un comme Raphaël Tronchet. Je sais pas si on peut en parler, tu vois, même que t'expliques clairement aux gens, mais en me renseignant pour l'interview, j'ai compris qu'en vrai, il y en a un des deux qui a tout à gagner, mais toi, en vrai, t'es complètement sur autre chose.
Mais non, mais c'est parce que tu sais, les détracteurs, ils essayent de se raccrocher à quelque chose, tu vois. Et donc, comme ils ont vu qu'ils faisaient un peu de bodybuilding, ils se sont dit, c'est ça, en fait, les gens. Quand ils voient que t'as des muscles, ah, il est fort. Regarde Tyson Fury. Regarde Fury, compare-le au corps à Joshua et à Wilder. Alors qu'il les défonce les deux. Et Fury, il est comme ça. Mais en boxe, ça n'a rien à voir, ça veut rien dire. Certes, c'est bien d'être fort physiquement, mais c'est pas parce que t'as des muscles que tu vas être fort, tu vois. Donc, ça va être tranché. On a voulu faire ce combat en 2018, tu vois. Parce qu'à l'époque, je viens de battre Cyril Léonet, qui était l'ancien champion de France. Et donc, pour mon cinquième combat, je veux faire la ceinture de champion de France. Donc, on veut faire ce combat, c'est à ce moment-là. Aujourd'hui, ça sert à rien, en fait. Moi, je veux une autre ceinture. J'ai été champion de l'Union européenne. Donc, ceinture de champion de France, ça m'intéresse pas, tu vois.
Et le combat, il s'est pas fait à cause d'un problème de cachet?
À cause d'un problème d'ego.
Tu m'as jamais vu, c'est la première fois que tu me vois. Maintenant, tu me sens et là, maintenant, tu vois qui est en face de toi. Je suis pas Johan, moi. Y a pas de trash talking, mais à un moment donné, fais tes bisous.
Tu vois.
S'il voulait pas être moins payé que toi.
En fait, le truc, c'est comme je t'ai dit. En boxe, t'as des gens qui sont intelligents et t'as des gens qui sont bêtes. Dans le sport, marketing, c'est comme ça que ça marche. Moi, si demain je vais, je vais dans une marque, une télé, je ne vais pas demander à être payé pareil que Mbappé. Je ne peux pas. On n'a pas. C'est pas que lui, c'est un meilleur mec que moi. C'est juste que, en fait, businessment parlant, je sais qu'on n'a pas la même valeur, tu vois. Lui, il gagne 10 000 euros dans son combat. Dans les combats qu'il fait, tu vois. Il gagne 10 000 euros par combat. Moi, je lui propose jusqu'à 150 000. C'est le combat. Le champion de France, le mieux payé de l'histoire. Et tu me dis non, moi je veux comme toi. Mais comment ça tu veux comme moi? Tu veux pas avoir comme moi? Moi j'ai un contrat avec Canal, tu vois. Moi, toi t'es pas champion olympique, toi t'as pas ci, t'as pas ça. Et il dit moi je veux comme toi, et en plus, c'est pas toi qui organise, c'est moi. Donc c'est lui qui prend les bénéfices du stade, des billets. Il est fou le type, tu peux pas parler avec lui en fait, tu vois. Et au final, tu te rends compte que c'est même pas une histoire d'argent. Parce que tu sais, au final, tellement ça devient personnel, je lui dis, écoute, viens, on s'en va faire. On va prendre ton cachet, mon cachet, on va les mettre ensemble. Et celui qui gagne, il prend.
Même ça, c'était pas suffisant.
Mais non, mais en fait, t'as vu, il a tellement parlé, il s'est tellement mis en avant d'ici, ça, que même un million, il le ferait pas. Parce qu'il sait que je vais le cogner, tu vois. Et au final, il va se retrouver. Mais c'est pas genre, je vais le cogner, ça va être compliqué. C'est un gros. Je vais le cogner. Donc après, même chez lui, il peut pas rentrer chez lui. Dans son quartier, ils vont lui dire quoi? T'es un gros menteur, en fait, tu vois. Ça sert à rien. En vrai, c'est quand tu connais un minimum, tu peux pas parler avec lui. C'est mais non, on n'est pas ensemble.
Et t'as jamais envie de prouver aux gens quand même.
Si.
Par exemple, quand il vient sur le ring et qu'il fait
mais
le
moi,
choix.
Mais moi, quand il dit vas-y, il vient sur le ring. Je me dis il vient sur le ring parce qu'il veut qu'on se boxe et qu'on va signer le contrat, tu vois. Mm. Moi, j'aime pas parler. Ça, franchement, c'est chiant. Mm. Donc quand il vient, je dis ok. Du coup, le lendemain, on lui envoie la proposition de contrat. Bah non.
Toujours pas.
Je veux pas. Donc depuis, je parle pas de lui. Pas de lui, tu vois pas. Mais lui, il continue. Oui, moi, qu'est-ce qu'il a fait depuis? Il a boxé un mec, un Argentin, qui était classé, je crois, 320e mondial. Et au premier round, il se fait sonner. Au premier round, le con, il se fait sonner. Non, il est nul. Franchement, sincèrement, c'est comme si tu me dis, il y a l'équipe de FC Chamonix qui dit au PSG, on va vous battre. C'est, en fait, en vrai, c'est arrêtez, les gars. Tu vois.
Son salaire.
Alors, on en parle en filigrane un peu, mais. Maintenant que t'es devenu pro, tu prends combien sur un combat?
Moi, j'ai le même contrat avec, depuis le début, tu vois. Et si tu regardes sur Internet, tu sais, non, 250 c'est... par combat.
Ok.
Tu vois. Parce que j'ai signé ce contrat de base et je me dis, c'était une sécurité sur les premiers combats. Après, une fois que t'arrives sur une demi-finale mondiale comme je devais faire ou que tu boxes un mec mieux classé, bah, tu prends pas les mêmes cachets, tu prends plus, tu vois.
T'es toujours chez Canal, là?
Toujours chez Canal.
Et le contrat avec le promoteur américain, c'est quelque chose qui est complètement extérieur à ce qui se passe avec Canal+, ou c'est un truc qui s'additionne?
Non, c'est quand même lié. Il faut qu'ils puissent bosser ensemble. Moi, j'ai signé avec Top Rank, justement, pour pouvoir avoir des opportunités comme j'ai eu là, sur la demi-finale, tu vois. Parce que je sais que une fois que je vais boxer des top mondiales, des top 5, moi, j'ai pas, de une, les ressources, et de deux, l'expérience nécessaire pour pouvoir... négocier avec eux sur ce type de contrat, tu vois. De toute façon, quoi qu'il arrive, je sais que je vais devoir boxer en dehors de la France, tu vois. Parce que quand t'organises le combat, ça veut dire que t'as gagné les enchères. Donc, en gros, vous avez mis plus d'argent que les autres. Et demain, je boxe Joshua. Qui c'est qui va mettre plus d'argent qu'en France, tu vois. Moi, j'ai boxé en France depuis que je suis passé pro, mais j'ai envie de boxer à l'étranger, tu vois. Rester dans sa zone de confort, ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'ai envie d'aller boxer à Vegas, boxer à Londres, tu vois.
D'affronter un public.
Complètement. C'est un truc, moi, ça ne va jamais me faire peur. Moi, ça va me motiver, justement. Tu sais, d'arriver dans une salle, tu boxes à Wembley et ils sont 80 000, ils sifflent. Ça donne, moi, ça me donne la pêche, moi.
La suite.
Depuis le début, on parle que de boxe, mais ce n'est pas éternel.
Ouais. Moi, j'aimerais bien... j'ai pas ce souhait de devenir coach, etc. C'est pas mon truc, mais j'aimerais bien être promoteur, tu vois. Comme en France, on n'a pas de grands promoteurs, on n'a pas de mecs vraiment. Tu vois, il y a eu les Acarias à un moment, mais même ça, c'est pas. Ils ont pas d'écurie, ils ont pas créé en fait derrière ça. Ils ont pas monté une salle comme Mayweather et la SM, comme Top Rank à ces salles, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais du coup, par rapport à ma renommée, par rapport à l'expérience que j'ai de ce sport, devenir promoteur. Signer des mecs, monter l'écurie et faire en sorte que notre sport en France il soit plus connu. C'est dur d'exister en France en boxe. Parce que pour exister dans un sport, pour gagner de l'argent, il faut une télé. Et aujourd'hui, des télés qui mettent de l'argent sur la boxe, t'en as pas beaucoup, hein, tu vois. T'as que nous, en fait. T'as combien de boxeurs en France qui boxent 500 euros, 600 euros? T'entraînes 3 mois pour gagner 500 euros? Ah, derrière, c'est sûr qu'ils ont un boulot, tu vois. Donc, ils peuvent pas être vraiment pros, ils peuvent pas performer, tu vois.
On arrive à la fin de l'interview. Comme je me le demandais, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé parler et qu'on n'a pas abordé?
Par rapport au projet que j'ai, il y a un truc qui va vraiment prendre pas mal de place, je pense, à partir de cette année, parce qu'on a tout mis en place et que ça va se concrétiser, c'est l'Afrique. Ça, c'est un truc qui m'a toujours tenu à cœur. Dans mon contrat avec Canal+, c'est marqué qu'on doit faire un combat là-bas. Parce que c'est un truc que j'ai envie de développer. Et ça me tient à cœur, ça me parle. Et parce que tout simplement, mon père, il a commencé la boxe là-bas. Et je me dis que de faire un combat là-bas, en gros, la boucle serait bouclée, tu vois.
Bah, je te remercie en tout cas.
Merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
Planning for your next trip? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.